merci beaucoup à vous trois d'être avec nous à la table du REC Balado. Pour commencer, pour les auditeurs qui ne vous connaîtriez pas, pourriez-vous vous décrire succinctement, peut-être nous parler de votre domaine d'expertise et dans quel champ de recherche travaillez-vous?
Oui, bonjour, mon nom est Linda Paquette. Je suis professeure en psychologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mon expertise porte sur la psychologie sociale, plus particulièrement les conduites à risque chez les adolescents et les jeunes adultes, ainsi que l'évaluation des modalités d'intervention afin de mieux les aider sur le plan psychosocial. La raison pour laquelle j'ai commencé à travailler avec des capteurs psychophysiologiques, c'est que j'étais devant un obstacle pour évaluer les réactions de stress des gens, que ce soit dans des situations d'expérimentation psychosociale, mais aussi lorsque je cherchais à vérifier l'effet d'intervention visant à calmer l'anxiété. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à la captation psychophysiologique. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'étais à la recherche d'un capteur portable qui me permettrait de faire une étude dans un contexte sportif chez des athlètes qui font du snowboard. On voulait tester quel serait l'effet de se faire filmer sur le comportement de prise de risque. L'hypothèse étant qu'une des raisons pour lesquelles les gens prennent des risques dans un contexte sportif de ce type, c'est qu'ils peuvent se filmer et publier leurs vidéos par la suite sur un réseau social. Il n'y avait pas de capteur qui permettait l'accès aux données brutes et qui permettait de capter le mouvement en même temps que les données psychophysiologiques, ce qui nous amenait à faire appel à Sean Montgomery de Connected Future Labs, qui, à l'inspiration de ce projet, a conçu un capteur qui s'appelle Emotibit et qui capte donc les données de stress physiologique, incluant la réaction électrodermale, le rythme cardiaque avec la photoplétismographie, la température de la peau, ainsi que le mouvement avec un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre. Maintenant, ce qui nous est venu à l'usage de ce capteur-là, c'est de comprendre que c'était difficile à interpréter, mais surtout que les données sortaient toujours sous forme de chiffres. Alors, on s'est demandé, est-ce qu'il y aurait moyen d'extraire les données du capteur pour en faire quelque chose d'autre qui ferait du sens? Et c'est ce qui nous a amené à collaborer avec M. Breleu et Marie-Ève Bilodeau de l'ETS.
Marie-Ève, veux-tu nous parler aussi succinctement de ton parcours, de ton background?
J'ai fait un baccalauréat en génie électrique et puis j'ai toujours travaillé un peu dans le domaine de l'audio-vidéo. Puis je me suis toujours aussi intéressée à côté de mon parcours plus en génie, aux arts, aux arts numériques en général. Puis j'ai décidé de continuer à l'université, de faire une maîtrise en génie électrique. Mais je voulais m'intéresser aux interfaces qui sont utilisées par les artistes audiovisuels. Puis justement, vu que moi, mon directeur de recherche, c'est Sidney Gagnon, lui aussi est en génie électrique, donc on n'avait pas l'expertise artistique. Donc, on est allé demander à Yann Breleu, qui était mon co-directeur justement, pour avoir cette expertise-là, pour pouvoir travailler ensemble. Puis nous, qu'est-ce qu'on avait fait ensemble, c'est que j'ai développé une interface tangible qui contrôle, qui envoie de l'OSC, donc qui peut contrôler des effets audiovisuels. Puis avec Yann, on a fait une expérience, on a fait une œuvre dans la satosphère à la SAT. Une œuvre immersive. Donc, moi, Pian, on avait collaboré de cette façon-là. Puis Linda, on avait collaboré il y a quelques années, justement, quand elle avait besoin de gens en génie pour traiter ses données.
Je comprends la connexion. Bonjour, Yann.
Bonjour. Oups, pardon. Donc, donc c'est vraiment... on a commencé par voir comment on pourrait collaborer pour créer des projets artistiques qui utilisent les données physiologiques. Puis ensuite, Marie-Ève a développé son interface, on a fait un spectacle. Et puis, moi, de mon côté, ce qui m'intéresse beaucoup, j'ai fait mon doctorat sur ça, c'est la visualisation du son. Et là, naturellement, est venue l'idée de, le son est un signal, les émotions captées sont des signaux aussi. Donc, comment il serait possible de visualiser? Quelles seraient les bonnes stratégies? Est-ce qu'il y a d'autres façons de visualiser le son ou de visualiser les émotions? Donc, quand il y a eu l'appel à projet pour Materia, j'ai pensé à cette idée-là et comme on était déjà en contact, bien, on a pensé soumettre un projet puis monter un projet, une équipe avec tout ça. Et il se trouve que parallèlement, j'ai deux de mes étudiants qui ont utilisé le capteur Emotibit dans un des cours pour créer un capteur. En fait, leur idée, c'était d'encapsuler des émotions. Et un de mes étudiants s'intéressait aux odeurs. Il s'appelle David Ertubiz. Il se disait, est-ce qu'on pourrait capter une odeur ou capter l'émotion qu'on ressent face à une odeur. Donc, il est parti de ça. Il a utilisé Emotibit, mais en relation avec le logiciel Touch Designer. Et le logiciel ouvre la porte, finalement, à toutes sortes de formes de visualisation, y compris en contexte immersif. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de notre table. Et donc, là, on a d'autres personnes qui se sont joints à nous, dont Antoine Gaudreau et Aaron Guy. Aaron Guy, qui travaille beaucoup sur la composition musicale et l'utilisation de capteurs physiologiques, qui crée des expériences interactives et des performances. On a aussi, via Ghislain, un étudiant de Ghislain, donc Antoine Langevin, qui a travaillé surtout sur les maisons intelligentes, mais dans le contexte de l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, comment optimiser finalement la consommation d'électricité dans les maisons et comment comprendre comment une maison consomme son électricité à partir de l'analyse des flux électriques. Donc, il a développé des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent d'analyser finalement maison par maison, qu'est-ce qui se passe, puis comment on pourra optimiser la consommation. Dans notre équipe, finalement, on a des profils interdisciplinaires et on collabore sur un même objet. Donc, il y a la dimension psychologique, il y a la dimension traitement de données, la dimension interface et la dimension visualisation. Et donc là, on va avoir aussi la visualisation sonique des émotions parce que Antoine Gaudreau va brancher le système pour que, d'une certaine manière, certains signaux physiologiques soient associés à l'esprit.
Une belle équipe avec, oui, des profils très complémentaires. Et donc, dans le cadre de Mataria, le laboratoire public de création des savoirs numériques, donc, vous collaborez autour du module, là je nomme le titre, hein, « Visualisation immersive des émotions en temps réel ». Et alors, comment ça va se passer concrètement? Parce que, alors, c'est à la fois très complexe, déjà une émotion. Comment va se passer ce travail, en fait, de visualisation immersive? C'est quoi vos stratégies, on va dire?
Effectivement, vous nommez une problématique qui est au cœur de l'usage des données de stress physiologique en psychologie. C'est-à-dire que les machines qu'on utilise pour capter le stress vont utiliser différentes données. Celles qu'on a dans le capteur utilisent, par exemple, les variations du rythme cardiaque et la variabilité du rythme cardiaque, mais aussi l'activation électrodermale qui va être altérée. Lorsqu'on est stressé, on sécrète de la sueur et ça augmente la conductance électrique de la peau.
Oui.
Alors, c'est comme ça qu'on évalue les variations du stress physiologique. Cependant, ces données-là sont très mauvaises à dire quelle est l'émotion qui est ressentie. Alors, on sait qu'il y a une activation, mais on sait très peu qu'est-ce que ça donne comme émotion spécifique. Alors, une question que l'on a qui est issue du projet, c'est est-ce que de sortir la donnée autrement qu'en chiffres, mais en images qui font du sens pour les spectateurs, peuvent servir de soutien ou de support à mieux identifier les émotions? Parce que les états d'activation que l'on vit, on doit les mentaliser, c'est-à-dire il y a une expérience cérébrale de traitement du cerveau qui permet d'interpréter ce que c'est que cette sensation-là et ensuite de trouver un mot pour dire ceci est cette émotion-là. Parce que être excité ou être terrifié, ça peut donner le même résultat sur une activation de stress. Mais par contre, on n'a pas la réponse sur quelle est l'émotion. Donc, ça ouvre le champ à répondre à des questions de l'ordre de l'identification des émotions et il y a déjà des idées là, d'élaborer un projet en utilisant l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle pour que les gens identifient eux-mêmes leurs émotions pendant qu'ils sont en train de les ressentir, pendant qu'on les capte, pour donner de l'information à un système qui pourra ensuite éventuellement apprendre à mieux identifier les émotions.
Justement, le caractère, on va dire, visuel, comment vous imaginez?
On a commencé un premier prototype. T'sais, en trois jours, on a eu le temps, la première journée, de se présenter. On a rencontré Sean Gunnery, qui est le créateur d'Emotibit. On a pu lui poser des questions, mieux comprendre son appareil, la philosophie qu'il y a derrière aussi. Parce que l'idée de rendre les capteurs physiologiques open source, c'est aussi une manière de diversifier les usages. Et quand on est en contexte artistique, c'est justement cette diversification-là des usages qui nous intéresse, c'est-à-dire comment on peut détourner l'appareil ou l'instrument, est-ce qu'il est possible de générer des choses nouvelles? Parce que quand on a un appareil industriel qui est conçu avec une orientation très spécifique, pour un traitement de données très spécifique, ça fonctionne, mais c'est plus difficile de faire de l'art avec ça, détourner le signal, de capter, le distribuer. Donc, on a commencé à établir justement une manière de rendre visible et de traiter certains signaux. Donc là, notre objectif ce week-end, c'était juste, dans le fond, on a comme établi une petite expérience. Peut-être on peut en parler ou comme idée.
Oui, notre idée, c'était de trouver une méthode pour générer des émotions ou des stress, en fait, facilement. Là. Fait qu'on a développé une expérience, c'est qu'on met deux personnes, une en face de l'autre, puis ces deux personnes-là ont des capteurs sur elles, les capteurs physiologiques. Donc, les personnes se rapprochent tranquillement, jusqu'à se toucher. On sait que quand on se touche, ça va créer un stress physiologique nécessairement. Puis l'idée, c'est qu'en même temps qu'il y ait cette activité-là, on capte les signaux, puis on les représente aussi en même temps. Donc, on va pouvoir évaluer qu'est-ce qui se passe quand, pour le public, est-ce que c'est plus compréhensible? Qu'est-ce qui se passe comme émotion pour ces personnes-là? Si les personnes revoient cette visualisation-là, est-ce qu'ils peuvent comprendre mieux qu'est-ce qu'ils étaient en train de vivre? S'ils voient en même temps la visualisation, est-ce que ça va modifier leurs émotions en temps réel aussi?
Bien, rapidement, pour répondre à un peu la question posée, donc, on a associé des paramètres à une forme tridimensionnelle. Et cette forme-là va se générer en temps réel. Et puis, mais les idées, on les met ensemble. Comme Linda regardait la forme, elle disait ça fait penser à un cœur. Donc, ça serait intéressant que la forme batte au même rythme que le rythme cardiaque des participants.
Oui.
Et donc là, Rémi Lapierre, un étudiant avec qui j'ai travaillé, mais qui maintenant enseigne le logiciel Unreal et qui est un codeur créatif, a créé un objet 3D de visualisation qu'on va utiliser dans notre expérience.
Également, sur le plan visuel, il a été choisi que plus l'état d'activation augmente, plus on se rapproche des couleurs chaudes, donc du rouge, qui dans nos associations culturelles est associé à plus de mouvement des particules, donc de la chaleur. Mm-hmm. Moins la personne est activée, plus ça dégrade vers le bleu. Et le capteur d'activité électrodermale capte des réactions assez fines du système sympathique. Par exemple, l'expérience qu'on fait souvent, c'est qu'on se tape sur la cuisse et là, ça provoque une amplitude élevée. Et les amplitudes élevées sont détectées sous forme de pics par le capteur. Donc, on appelle ça des événements dans l'activité électrodermale. Et ces pics-là, lorsqu'ils surviennent, ils vont s'afficher ils vont apparaître sous forme de pointe dans une spirale qui exprime l'émotion.
Et puis, Antoine a branché le capteur sur le logiciel de musique Max MSP, qui est assez utilisé. Puis on va essayer, en tout cas, lui, il est en train de programmer cet aspect-là, de créer simultanément une sonification des émotions. Donc, on capte les signaux des deux personnes, puis on crée une sonification de cette activité-là. Donc, mais jusqu'où on va aller, on ne sait pas encore, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a... On a les objets sonores, on a l'objet 3D, on a les capteurs, puis là, demain, on a 2 heures pour tout mettre ça ensemble.
Vous me parliez que vous aviez rencontré le créateur de l'interface physiologique, Emotibit. Comment s'est passée cette rencontre?
C'est une rencontre fortuite qui s'est produite au départ. C'est que j'avais un ami qui a travaillé à New York au niveau du doctorat avec des gens en neurosciences. Et un de ses amis s'est mis à fabriquer des capteurs. Donc, moi, j'en essayais tout plein, les capteurs sur le marché pour mes études, et rien ne me satisfaisait. Et il m'a dit, je connais quelqu'un qui en fabrique. Alors, ça a commencé comme ça. Et Sean Montgomery travaille en collaboration avec des gens qui ont une plateforme, en fait, de vente de matériel de captation psychophysiologique qui est abordable et qui est surtout ce qu'on appelle open source, c'est-à-dire que c'est en accès libre. Donc, toutes les données issues des capteurs sortent de façon brute des capteurs. Mm-hmm. Et les gens peuvent décider de, par exemple, imprimer en 3D leur propre encapsulage. Ils peuvent imprimer leur propre casque de EG pour l'électroencéphalographie. Et bon, lui a conçu un capteur dont l'objectif, c'est de donner un accès complet aux données aux gens qui l'utilisent, mais aussi toute la programmation, tout le code qui est dans le capteur est complètement gratuit et accessible aux usagers qui peuvent eux-mêmes nourrir le code en ajoutant sur les plateformes. Et donc, il y a une composante un peu idéologique, disons, à la conception de ce type de capteurs-là, qui sont abordables pour des consommateurs parce que les capteurs psychophysiologiques sur le marché actuel, ceux qui sont utilisés à des fins scientifiques ou médicales, sont très chers. Donc, les machines sont de 10 000 $ et plus. Mm-hmm. Et les données sont néanmoins un peu filtrées, ce qui veut dire que l'accès aux données brutes telles qu'elles sortent du capteur est plus difficile à obtenir. Donc, il y a toute une philosophie d'accès libre derrière ce capteur-là. Il nous permet une grande liberté, en fait, d'action pour extraire le signal et en faire autre chose via une plateforme, par exemple, comme Touch Designer.
Le signal OSC, qui est Open Sound Control, c'est un signal assez commun maintenant, qui est présent dans les spectacles musicaux, dans beaucoup d'interfaces tangibles. Donc, ça, le fait qu'on puisse vraiment capter l'ensemble des signaux en OSC, ça ouvre la porte pour utiliser cette interface-là pour créer de la musique, créer des visualisations, orienter la composition de manière automatisée. Ça ouvre vraiment à une foule d'usages. Il y a cette idée-là de détourner l'usage commun des capteurs physiologiques pour découvrir de nouvelles manières, des utilisations créatives, finalement, de ces outils-là.
Il y a également toute une dimension philosophique derrière l'idée d'extraire de notre intérieur le ressenti qui, normalement, n'est pas accessible à autrui et à l'extérioriser sous forme d'images et de sons. Donc, que se passe-t-il lorsque le signal interne est mis à nu là, vers l'extérieur? La transparence que ça crée, qu'est-ce que ça créera sur la personne qui voit son signal, mais aussi sur un public éventuel? Et comment ce signal-là qui extrait du monde extérieur est présenté aura un impact à la fois sur la personne qui voit son propre signal dans une loupe, dans une courbe, dans le fond de...
Tout à fait.
Je dirais un retour de feedback là, qui crée des loops.
Puis c'est sûr qu'il y a des questions d'ingénierie aussi intéressantes avec ça parce qu'on se retrouve avec des données qui sont très bruitées parce qu'on a vraiment les données à source qui sortent du capteur. Puis c'est un traitement de données qui doit être fait pour qu'on puisse avoir des signaux propres. Souvent, quand on bouge avec le capteur, il se retrouve plein de bruit dans les signaux. Donc aussi... Comment on peut faire pour utiliser les signaux de mouvement pour débruiter les signaux, par exemple, du cœur ou les autres types de signaux. Puis tout le côté de faire une base de données pour créer des modèles d'intelligence artificielle aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant en ingénierie.
Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a des questions de recherche. Et puis moi, j'hésiterais à m'aventurer dans le domaine de la psychologie, dans le sens que oui, ça m'intéresse, oui, je lis sur le sujet, c'est une curiosité naturelle, mais comme chercheur, j'ai mes propres questionnements. Puis là, on a comme un objet commun, on va dire, on appelle ça un objet frontière, c'est-à-dire un objet qui nous permet de développer nos propres questionnements, c'est-à-dire comment on traite les informations, les optimise, les classe pour arriver à avoir quelque chose de significatif. Mais aussi, quelles sont les émotions qui sont impliquées et puis qu'est-ce que ça signifie? Parce que pour les artistes, comme je dis que souvent je fais du design expérientiel, je crée des expériences, mais l'expérience en tant que telle, quelles émotions ça provoque? Est-ce que je comprends qu'est-ce que je suis en train de créer? Qu'est-ce que le public comprend mes intentions? Donc, comment évaluer cet aspect-là? Mais aussi, on pourrait penser, par exemple, qu'il y a des émotions impliquées dans la création de la pièce, puis il y a des émotions impliquées dans la réception. Et qu'on pourrait combiner ces deux formes-là pour essayer de dégager des nouvelles connaissances.
Un autre aspect qui est intéressant dans ce contexte un peu intersectoriel, parce qu'on sort même de disciplines similaires, on est complètement dans des secteurs complètement différents, là. Dans le fond, on peut faire des études qui vont nourrir chacun des domaines de façon simultanée, c'est-à-dire que pendant une expérience esthétique, il peut y avoir aussi une expérience psychosociale. Les données peuvent être recueillies et répondre à des questions de recherche en psychologie en même temps, et en même temps procurer des données pour le domaine de l'ingénierie. C'est possible. Et ce que je dois dire, c'est que ce genre d'événement-là qui est réalisé ici cette semaine est merveilleux parce que ça nous met en contact avec des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire seul chacun de notre côté, avec vraiment un tout supérieur à la somme de ses parties. Puis en même temps, c'est une expérience qui nous amène dans la vulnérabilité parce que moi, je dépends énormément de gens comme Marie-Ève ou Yann pour tout ce qui ne concerne pas mon domaine. Je ne pourrais pas traiter ces données-là toute seule. Je ne pourrais pas créer quelque chose d'artistique toute seule. Et puis, une expérience qui renforce, mais qui nous fait connecter avec l'interdépendance. Alors, c'est très intéressant.
Tout à fait, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci Linda Paquette, Marie-Ève Bilodeau, Yann Breleux. Merci d'avoir été avec nous. Merci.